9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec un petit peu de retard aujourd'hui, mais c'est dû à la circulation parisienne. Mais bon, le plaisir vient du manque. Et tout vient à point à celui qui sait attendre, puisqu'Ali Habibi est enfin avec nous. Bonjour Ali. Voilà, et on n'entend même pas votre voix. Et on n'entend pas votre voix parce que votre micro, il n'est pas branché, en fait, Ali. Vous voyez. Alors prenez-en un autre, ouais. Voilà, prenez-le avant la fin de l'émission, comme ça, ça sera mieux, comme ça on vous entendra. Regardez, il fonctionne celui-là.
Là, c'est bon comme ça.
Voilà, c'est merveilleux.
C'est mieux.
Ouais, je vous redis bonjour, Adi.
Rebonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, et désolé, vraiment navré pour le retard.
C'est la vie parisienne. Alors, vous êtes thérapeute du couple, vous êtes addictologue, et vous publiez, Ali, votre premier livre, enfin là, sur un sujet qui vous tient à cœur, le célibat, liberté et souffrance, en vente à partir d'aujourd'hui sur Amazon. On en reparlera pendant tout ce mois du Ramadan de votre livre, mais c'est à l'addictologue que je m'adresse. Boulimie, tabac, café, alcool, addiction à la pornographie. Comment est-ce que les personnes qui sont addictes gèrent-ils ce mois de Ramadan ? Est-ce que la foi est plus forte que les addictions, les addictions ou pas ?
Alors tout dépend du niveau de dépendance en réalité. Beaucoup de personnes qui sont dépendants soit à un produit ou soit à un type de comportement, que ce soit la pornographie ou les jeux de hasard, peuvent ou arrivent à gérer. Même ceux qui sont dépendants de certains produits comme la cigarette par exemple ou le café, certains arrivent à gérer. D'autres même profitent de ce mois-là pour justement travailler leur sevrage et arrêter. Après, l'idéal, c'est de commencer quand même un peu avant la période de sevrage. Malheureusement, les gens commencent au début du Ramadan, la période de sevrage, qui rend les choses encore plus difficiles. Mais donc, certains réussissent. D'autres ont beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à jeûner, mais dans leur comportement, ça va être compliqué à gérer. D'où, parfois, des excès d'humeur ou des difficultés de gestion des émotions. Et quelques autres, malheureusement, n'y arrivent pas du tout. À tel point qu'ils n'arrivent pas à jeûner, en fait, tout court, tout simplement. La dépendance, pour certains, est trop forte, ce qui fait que le jeûne n'est pas possible pour eux ou très difficile. Donc, vous avez certaines personnes qui décident d'elles-mêmes de ne pas jeûner parce qu'elles pensent que c'est trop difficile. D'autres qui essayent malgré tout et qui n'y arrivent pas. Et d'autres, sous recommandation, justement, de leur médecin, peuvent ne pas jeûner pendant une période et essayer de travailler leur dépendance. Après, certains vraiment réussissent quand même à gérer cette dépendance. Et le travail qui est proposé malgré tout, c'est d'essayer quand même de profiter du Ramadan, quel que soit le niveau de dépendance, pour essayer de diminuer.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des vrais et des faux addicts ?
Non. Ça
n'a rien à voir avec...
Ce sont quand même des personnes qui sont dépendantes. Seulement, le niveau de dépendance n'est pas le même. Quelqu'un qui a une dépendance, par exemple, à un médicament en particulier et qui en prend à hauteur entre à 5 fréquences journalières, plusieurs comprimés à chaque fréquence, ça va être compliqué à gérer pour lui, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui est dépendant à l'alcool ou au tabac arrive un peu plus à gérer. Il peut diminuer.
Pour les fumeurs, ils fument pas pendant toute la journée et ils diffèrent leur prise de tabac dans la soirée. Ce qui fait que certains fument presque plus pendant ce laps de temps qui est court. Hein.
Ils vont fumer plus et même malheureusement très tôt, parce que parfois ils vont rompre le jeûne avec la reprise du produit, mais parce que justement c'est très difficile. Donc voilà, il faut bien comprendre que quelqu'un qui est dépendant, quel que soit son niveau de dépendance, selon le produit dont il est dépendant, ce n'est pas qu'une question de volonté, parce que certaines personnes qui peuvent être à l'extérieur et autour d'eux pourront se dire oui, mais ils pourraient faire un effort, ou pendant ce mois-là ils pourraient justement commencer à arrêter parce que ça commence à bien faire, etc. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas qu'une question de volonté. La volonté est très importante dans la liberté, dans la recherche de liberté par rapport à la dépendance, dans le soin, mais elle n'est pas suffisante. Il faut un accompagnement, il faut un programme qui peut être mis en place. Certaines personnes réussissent à arrêter d'elles-mêmes, toutes seules dans leur coin, mais c'est rarissime, parce qu'on prend souvent ces exemples-là pour
culpabiliser les autres en disant, mais voilà, c'est une question de volonté. Moi, je me suis arrêté un jour, j'ai décidé de moi-même.
Et... Donc, on a tous des exemples comme ça, hein, de personnes qui ont arrêté de fumer, par exemple, du jour au lendemain, et qui, depuis 40 ans, ne fument plus, et ça leur pose plus de problèmes. Donc, on a quelques exceptions comme ça, mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est qu'il faut un accompagnement, qu'il faut du temps. Et d'ailleurs, on ne cherche pas à arrêter la consommation du produit ou du comportement. En addictologie, on cherche à la diminuer progressivement pour pouvoir justement permettre éventuellement un arrêt à moyen ou à long terme. Mais l'arrêt sur le champ rend les choses difficiles parce que les rechutes sont assez violentes en général. Les gens n'anticipent pas ces rechutes-là. Et d'ailleurs, même au niveau... au niveau religieux, quand vous regardez par exemple ce qui s'est passé en termes de révélation du Coran, c'est-à-dire que le Coran a été révélé sur 23 années, ce qu'il faut savoir c'est que les premières années, les Arabes étaient des grands buveurs d'alcool et les textes n'ont pas interdit l'alcool tout de suite. C'est-à-dire que vous avez toute la période médinoise, toute la période mécoise, pardon, qui a duré 13 années, où pendant 13 années quand même de révélation, l'alcool n'est pas interdit. Le premier verset qui descend est celui qui dit qu'il y a plus de mal que de bien dans l'alcool, donc déjà une prévention. Certains vont arrêter à partir de là, parce que ça leur suffit pour pouvoir arrêter. D'autres continuent à boire. Deuxième verset qui tombe un peu plus tard, qui va être justement n'allez pas prier en état d'ivriété, d'ivresse. Donc là, justement, on essaye de diminuer la consommation. Vous voyez, il y a 5 prières par jour. Vous pouvez toujours boire, mais pas pendant ces périodes-là. Donc on diminue progressivement la consommation. Et puis quand le prophète, va à Médine et émigre à Médine, le verset, justement, l'interdiction tombe, et là, tout le monde arrête. Ou presque tout le monde arrête. 99% des personnes arrêtent et l'alcool va être détruit, etc. Et ça va être simple pour eux de le faire. Pourquoi ? Un, parce qu'il y a eu une diminution progressive qui s'est faite sur plusieurs années. Et deux, en parallèle, il y a un accompagnement qui est fait par le prophète, justement, où il
qui consiste en quoi, oui.
L'accompagnement, justement, spirituel, qui va consister à les rapprocher de Dieu, à avoir une perception du monde qui va être différente, à puiser dans leur qualité, dans leur bonne perception des choses, pour justement l'agrandir, entre le bien et le mal, à essayer de changer leur comportement, tout ce qui concerne la réforme, et qui s'arrête pas juste au produit, en fait, hein. C'est une réforme qui se fait sur bien des domaines, et notamment, justement, sur leur comportement et leur consommation. Que ce soit la consommation d'alcool, ou que ce soit la consommation d'autres choses. C'est-à-dire que les comportements qu'ils avaient ont changé malgré tout. Mais ça s'est fait sur plusieurs années.
Le tabac n'existait peut-être pas encore de la même façon à l'époque. Alors, les addictions au tabac n'étaient pas du même ordre.
Je ne sais pas par rapport au tabac si c'était des consommateurs de tabac ou pas, ou à quoi ressemblait le tabac à l'époque. Je n'ai aucune information là-dessus. C'est vraiment sur l'alcool, mais on sait que même dans leur comportement, il y a plein de choses qui ont changé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'accompagnement en termes d'addiction et en termes de réforme se fait sur du moyen ou sur du long terme. Avec un accompagnement, justement, et des choses qui sont mises en place avec patience. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change ou qu'on arrête des choses qui sont parfois plus fortes que nous. Donc, ce n'est pas est-ce que la foi est plus forte que nous, vous voyez, parce que même la question de se dire est-ce que la foi est plus forte que
nous,
ça pourrait faire culpabiliser certains qui n'arrivent pas à arrêter.
Par exemple, regardez Ali.
Pensant qu'ils n'ont pas suffisamment la foi, alors qu'ils pourraient avoir, justement.
Pendant le mois du ramadan, il y a des personnes qui souffrent d'addiction, qui finalement arrivent à s'en passer très bien pendant un mois. Mais vraiment sans... alors que le reste de l'année, ça serait complètement impossible. Et dès que le mois du ramadan est terminé, reprennent exactement les mêmes habitudes là où elles les avaient laissées en début de...
Il y a deux choses par rapport à ça. C'est-à-dire, la première des choses, c'est ceux qui n'arrivent pas à arrêter pendant ce mois-là ou qui ne diminuent pas suffisamment. Parce que l'objectif, encore une fois, la plupart des gens veulent arrêter. Mais ils veulent arrêter tout du jour au lendemain, quel que soit leur niveau de consommation. Ce qui est très délicat, selon le niveau de consommation. Quelqu'un qui est un petit consommateur peut arrêter comme ça du jour au lendemain. Quelqu'un qui est un gros consommateur, ça va être compliqué pour lui. Et c'est pour ça que nous,
c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais.
Justement, la diminution progressive jusqu'à l'arrêt. Donc, certains vont réussir, certes. Et c'est vrai qu'il y a un effet, magique pendant le ramadan où l'effervescence, où la foi, où justement la perception que les gens peuvent avoir, où l'attachement qu'ils vont avoir, où justement les actes qu'ils vont faire pendant le ramadan vont leur permettre de pouvoir arrêter pour certains. Ceux qui n'y arrivent pas, ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas de foi ou qu'ils ont une foi trop faible. Ça peut être la dépendance qui n'est pas la même, ça peut être leur contexte qui n'est pas le même, leur métabolisme qui n'est pas le même, leur vulnérabilité qui ne sont pas les mêmes justement au niveau cérébral selon la consommation du produit. Donc vous voyez, c'est très délicat à jauger. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui ne réussit pas ne signifie pas que c'est une personne qui a peu de foi ou pas assez de foi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément lier la foi à l'arrêt. Et je pense que même qu'il ne faudrait surtout pas le faire. Il faudrait pouvoir utiliser la foi pour pouvoir justement accompagner la personne et l'aider à diminuer pour arrêter, mais ne pas mettre sur la balance, c'est soit tu as la foi, soit tu continues à consommer. Ça ne peut pas aller ensemble. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ça voudrait dire que si on veut extrapoler, aller plus loin, quelqu'un qui commet un péché, quelqu'un qui n'a pas la foi. Et là, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va dépasser certaines limites. À partir du moment où on reconnaît que l'être humain est pécheur, l'être humain va pécher. Il va tout faire pour éviter. Ça va être donc la première démarche. Justement, il va essayer de s'éloigner des mauvaises actions. Là, on rentre au niveau spirituel. Et quand il va en commettre, parce qu'il va en commettre, il fera tout pour revenir le plus rapidement possible et utiliser cette erreur pour devenir meilleur. Mais quand il commet une erreur, il ne perd pas sa foi et il ne devient pas justement quelqu'un de mauvais. C'est l'erreur et fait partie de nous. Notre vulnérabilité, elle est présente. Et nous avons tous des comportements problématiques en soi. que nous travaillons chacun dans notre coin ou que nous devrions travailler chacun justement pour pouvoir y remédier.
Alors il y a également la consommation des films pornographiques hein, qui ne baisse pas pendant le mois du Ramadan, pendant l'espoir du mois de Ramadan. Qu'est-ce qui fonctionne finalement sur le long terme sur la gestion de ces addictions?
Alors ça dépend, après si c'est une addiction à un produit ou une addiction à un
comportement. Là je vous parle d'un comportement. Hein.
Parce que si l'addiction à la pornographie est une addiction comportementale, alors oui il y a des... ça ne diminue pas forcément pendant le Ramadan, c'est-à-dire que ça c'est des chiffres hein, qui le disent en termes de consommation, quels que soient les pays du monde, et notamment les pays musulmans hein, qui sont déjà des consommateurs de ce genre de films, c'est-à-dire qu'on le voit que on le voit par rapport aux statistiques que c'est des gros consommateurs. Maintenant, pendant le Ramadan, ça ne diminue pas pour une raison très simple, c'est que les pics vont se situer plus le soir. Donc déjà il y a une diminution
là où le reste de l'année effectivement ça s'étale sur toute la journée.
C'est ça. Mmh. Donc là il y a une diminution la journée, ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Puis il y a une recrudescence qui va s'activer le soir, mmh. là où ils se permettent de pouvoir accéder à ce genre de contenu. Après à ce niveau-là c'est pareil, hein, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a encore plusieurs niveaux de dépendance par rapport à la pornographie. Vous avez celui qui va regarder accessoirement de temps en temps, et celui-ci en fait il est même pas dépendant du tout, c'est pas forcément problématique pour lui, et ceux qui peuvent pas s'en passer, et je vais aller même plus loin, il y a quelques cas qui sont rares mais qui existent, qui peuvent même ne même pas s'en passer la journée, c'est-à-dire que même pendant la période du jeûne, même pendant la journée vont malheureusement devoir consommer ce genre de contenu.
Alors je sais, sans vouloir trahir un secret, mais je le trahis, en général on dit ça pour que vous avez travaillé sur une méthode justement, Ali Habibi, justement pour la prise en charge de ces addictions. Qu'est-ce qui fonctionne?
Ce qui fonctionne, c'est le travail sur du long terme. C'est-à-dire que c'est pas magique.
Donc on claque pas dans les doigts, on dit pas du jour au lendemain, c'est fini, je m'arrête.
Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, en ce qui concerne le programme, oui, c'est vrai que c'était un secret, mais c'est pas vraiment tant un secret ça, parce que certains patients le savent déjà et on travaille déjà dessus.
Non, mais je sais que vous l'élaborez, c'est pour ça.
Mais voilà, mais ouais. Il sera, s'il plaît à Dieu, publié un jour ou l'autre, peut-être l'année prochaine.
Fallait que je vous pousse un peu quand même, je vous trouve trop en vacances en ce moment.
Non, pas du tout. Je suis toujours en train de travailler. Il y a toujours des quoi. Il y a du contenu qui arrive encore dans quelques mois, donc c'est. Et là, en plus, il y a la sortie du livre, donc on ne change pas, Philippe.
Mais parce que en fait, c'est souvent une question qui concerne le reste de la famille. Et ce que vous expliquez dans votre livre sur le célibat, c'est que ça concerne énormément les célibataires. Et finalement, aussi, une des causes du célibat, ça peut être les addictions à la pornographie.
Oui, ça peut. Alors, c'est pas la cause majeure, hein, mais c'est une cause et c'est surtout une conséquence. Hein. Ça peut être aussi une conséquence. Maintenant, ce qui peut fonctionner, comme je commençais à le dire tout à l'heure, c'est de faire un programme déjà sur peut-être 6 mois ou une année éventuellement, où vous avez un accompagnement, dans l'idéal, un accompagnement thérapeutique ou de coaching, mais quelqu'un qui s'y connaît quand même un peu en addiction, et où on part vraiment sur une diminution progressive. Donc on part de l'état de la personne, on fait un état des lieux de où est-ce que se situe la personne, quelle consommation elle a de la pornographie, comment elle est, dans quel contexte elle se situe, quel est son cadre familial, son cadre professionnel. Donc vraiment on fait un travail d'abord sur le cadre, on voit ce qui est faisable et on commence très doucement en réalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme, je ne sais pas moi, une heure par jour, on va commencer à essayer, alors selon son profil, c'est soit de diminuer cette heure-là progressivement chaque semaine ou chaque mois, ou alors de diminuer les fréquences. Pas forcément la quantité, mais la fréquence. Dans les deux cas, c'est une diminution, que ce soit...
C'est un sevrage donc progressif.
Progressive, et ouais. Ça se fait sur du temps. C'est-à-dire que, et c'est là où les gens peuvent parfois s'impatienter, parce qu'ils veulent un résultat tout de suite, et ils se disent que diminuer, c'est pas forcément arrêter. Mais arrêter, ce n'est pas arrêter non plus. Parce que les personnes qui arrêtent du jour au lendemain, la plupart du temps, elles font des grosses rechutes, en sachant que la rechute fait partie du traitement. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir des rechutes, et là, il faut aussi rassurer les gens. Quelqu'un qui arrête une consommation, alors même à un produit...
ça marche pour le tabac, pour l'alcool, voilà.
Le fait d'avoir des rechutes, c'est juste normal. C'est-à-dire que nous, on s'attend à des rechutes. C'est même presque pas normal qu'il n'y ait pas de rechute. Vous voyez, donc on se dit juste quand est-ce qu'elle va arriver, cette rechute-là. Donc avoir des rechutes, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Ça ne remet pas en cause le travail qui est fait, parce que certaines personnes ont l'impression de revenir un peu à zéro, ou c'est pire qu'avant. Non, pas du tout.
Mauvaise estime d'eux-mêmes, d'avoir échoué.
Ça joue énormément, justement sur l'estime. Mais pendant ce laps de temps où il y a eu justement une diminution ou un arrêt, il y a eu des victoires en fait qui se sont opérées. Et on ne revient pas à zéro. Et ça ne remet pas en cause notamment le travail, parce qu'après d'ailleurs on travaille sur la rechute, elle fait partie du programme justement. Et l'idéal, c'est de prendre conscience de tout ça ou d'aider la personne à prendre conscience de tout ça, tout en l'accompagnant, encore une fois, progressivement, et j'insiste sur ce mot-là, progressivement sur la diminution, pour arrêter sur du moyen ou sur du long terme. Et là, ça fonctionne.
Ali Habibi est notre invité aujourd'hui jusqu'à 10h. On va parler du célibat à l'occasion de la sortie de votre premier livre, Ali, ça se fête, Le célibat, liberté et souffrance. Il est en vente sur Amazon et on va justement parler de ces fléaux hein, aujourd'hui, puisque c'est un fléau le célibat, avec des chiffres qui sont en grande augmentation et on verra pourquoi dans un instant.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Ali Habibi qui est avec nous, thérapeute du couple, et c'est aux célibataires que vous vous intéressez à travers ce premier livre que vous publiez, Ali. Le célibat, liberté et souffrance sur Amazon. Alors, le célibat, qu'est-ce que vous donnez comme définition à ce mot?
C'est le statut de toute personne qui n'est pas en couple, pas mariée. Tout simplement, que ce soit une personne qui n'ait jamais été mariée ou que ce soit une personne qui a déjà été mariée et qui a divorcé, à partir du moment où la personne n'est plus mariée, elle est célibataire.
D'accord. Pourquoi est-ce que vous n'incluez pas les veufs dans votre définition?
Parce que le statut de veuf et de veuve est particulier quand même, parce que même au niveau inconscient, il n'y a pas eu de séparation. Ou la séparation, ça a été justement le décès, la mort, ce qui n'est pas forcément une séparation qui est toujours acceptée. Donc les gens ne font pas forcément le deuil, même s'ils réussissent parfois à se remarier derrière. Et donc par respect pour ce statut, je ne l'intègre pas dans le... Même s'ils sont célibataires, ils redeviennent célibataires en réalité, mais par respect pour justement cette relation qu'ils peuvent avoir avec leur défunt ou défunte, je ne les intègre pas forcément dans le célibat, ou même s'ils sont célibataires. Donc je les mets un peu à part pour respecter leur statut et leur relation, parce qu'on n'est pas sûr que le deuil ait été fait.
Je vous connais quand même bien, Ali, je vous ai vu pratiquer. Vous vous occupez essentiellement des couples. Pourquoi est-ce que la question, finalement, des célibataires vous intéresse-t-elle presque plus que celle des couples?
En fait, parce que la majorité des gens que je vois sont des couples, mais il y a quand même une bonne partie de personnes que je vois seules. Qui viennent en consultation seules, donc ça me représente peut-être 40% ou 45% de ma patientèle, des personnes qui viennent seules, pour soit des problématiques de couple, ou des problématiques de famille, ou justement parce que ces personnes sont célibataires. Donc j'ai beaucoup de personnes, beaucoup de patients qui sont justement dans cette souffrance du célibat, et c'est un peu que de leur rendre
hommage. C'est pour eux que voilà. Vous écrivez ce livre, c'est voilà. Pour ceux qui en
exactement,
souffrent en fait.
Exactement, hein. Oui, bien sûr, parce que comme je dis dans le livre, il y a plusieurs catégories de célibat. Ceux qui choisissent d'être célibataires et qui l'assument et qui sont très heureux comme ça ne sont pas du tout concernés par la problématique, parce qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de souffrance forcément, même s'il y a peut-être des difficultés, elles sont mineures et gérées par la personne, choisies et gérées et assumées. Donc à partir de là, je pense qu'il faut aussi respecter la position de ces personnes-là et arrêter de les embêter à vouloir les marier à tout prix et de les caser à tout prix. Il faut respecter leur choix. Donc ces personnes-là, je les mets à part.
Alors vous dites respecter leur choix, alors qu'à une époque, on pensait que c'était pas un choix, que c'était forcément subi. On appelait ça les vieux garçons et les vieilles filles. Oui. Maintenant, on dit plus comme ça.
Parfois, c'est subtil et je l'explique un peu dans le bouquin sur les différents types que j'énumère du célibat. Vous avez la personne qui va choisir d'être célibataire et qui va l'assumer. Donc, il y a une pleine liberté et même s'il y a des petits inconvénients, c'est totalement gérable. Vous avez une deuxième catégorie de personnes qui vont subir le célibat et en souffrir. Donc, déjà, ça, c'est une des catégories qui va m'intéresser pour pouvoir les aider. Une troisième catégorie de personnes qui vont prétendre choisir leur célibat alors qu'elles en souffrent. Vous voyez, et c'est là où ça devient subtil peut-être pour les gens qui sont autour d'eux. Et la quatrième catégorie, c'est des personnes
dont vous êtes la seule à parler au monde.
Oui, peut-être.
Vous avez inventé un syndrome.
Oui, le syndrome du fou de Leïla. Donc c'est une catégorie de personnes qui vont se plaindre de leur célibat, faire des causes pour se marier, mais ne pas se marier. Et quand on analyse un peu leur situation, en réalité, c'est que dans leurs actions, elles mettent en place des stratagèmes pour ne pas se marier. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont souffrir de leur situation, mais elles sont dans une ambivalence entre le fait de vouloir réellement se marier.
Donc elles affichent, c'est ce qu'elles affichent vis-à-vis voilà, des exactement. Autres, de l'entourage.
Visible, c'est ce qui voilà. est visible même pour elles-mêmes, hein, parce que parfois elles ne s'en rendent pas compte. Et alors que derrière, il y a l'autre côté de l'ambivalence qui est qu'elles ne veulent pas se marier pour de multiples raisons, soit la peur de l'engagement, soit la peur de l'échec, soit la peur de ne pas être avec la bonne personne, etc. Et ce qui va faire que ces personnes-là vont saboter. Leurs différentes rencontres, saboter leur préparation au mariage, vous voyez, mais de manière récurrente. C'est-à-dire, ça va être des personnes qui vont rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui peuvent plaire et à qui ils peuvent plaire, potentiellement préparer ou commencer à préparer un mariage. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'elle ne se marie pas. Et c'est intéressant à étudier, c'est un profil qui est intéressant. Mais donc, vous voyez que c'est ces trois profils-là, ces trois derniers profils qui m'intéressent et dont je parle le plus dans le livre. Et le premier qui le choisit, il l'assume. Ceux-là, je pense qu'il faut les protéger et les préserver et respecter leur position.
De votre pratique, est-ce qu'il y a plus de célibataires qu'avant ou il y en a autant qu'avant, sauf qu'avant, on n'en parlait pas?
Non, je pense qu'il y en a plus quand même malgré tout, même si c'est toujours difficile de jauger par rapport un peu de faire une distinction en termes de statistiques ou en termes même de ressenti, parce que notre ressenti à nous, c'est pas
ça reste du ressenti, donc c'est pas
et les personnes que je vois, c'est des personnes qui sont soit en souffrance ou soit en demande de quelque chose. Donc par exemple, les personnes qui vont l'assumer, je vais pas forcément les voir. Mais si je les vois pas, ça ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Mais malgré tout. Je pense quand même qu'il y a plus de célibataires que d'antan. Et d'ailleurs, même les statistiques le montrent. En 30 années en France, le chiffre de célibat a plus que doublé. Donc oui, il y a plus de célibataires, ce qui est en réalité normal. Donc c'est totalement normal quand on voit l'évolution de la société.
Mais finalement, s'il y a plus de célibataires, il y en a plus de célibataires des deux côtés. Donc ça fait plus de gens qui sont libres pour se marier.
Oui, alors après, c'est compliqué parce que bon, oui... Oui, même si j'allais rentrer dans une
c'est comme le marché de l'emploi, finalement, il y a des métiers qui restent déficitaires structurellement.
Ce que je veux dire, c'est que bon, même si c'est presque égal, on n'a pas le même nombre de naissances de garçons que de filles, mais oui, il y a autant d'un côté que de l'autre, et en fait, il y a plus en plus de célibataires. Il y a des gens qui vont être en couple, mais qui sont pas forcément considérés comme ne faisant plus partie du célibat, vous voyez. Donc ils vont soit être en couple, soit flirter avec quelqu'un, ah mais oui. arrêter. Elles se considèrent célibataires.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés.
Voilà. Donc le fait qu'elles ne soient pas mariées ou en concubinage, vous voyez, ou paxées, va faire d'elles des personnes dites célibataires. Mais elles peuvent être célibataires pendant une période, ne plus l'être pendant une autre, puis le redevenir. Donc vous voyez, c'est toujours très très compliqué à gérer. Mais l'évolution sociétale amène à une recrudescence du célibat.
Quelles sont les spécificités à vivre le célibat dans la communauté musulmane? Je mets des guillemets. Hein.
Oui. Il y en a plusieurs.
Parce qu'avant, c'était très mal vu.
Alors ça l'est toujours, peut-être un peu moins, mais ça l'est toujours. Après, la différence, c'est que... Alors c'était très mal vu parce que les gens avaient une perception du monde qui faisait que si vous n'étiez pas marié à un certain âge, c'était pas normal.
C'était suspect quand même.
Et ça, vous l'avez encore dans certains pays. Hein. Je reviens il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais en Inde. Et en Inde, par exemple, vous avez ce que m'expliquait le guide, quelqu'un qui n'est pas marié à 25 ans, c'est pas normal. C'est soit il a un problème qui est caché, donc ça inquiète éventuellement des prétendants, soit dans le caractère, il y a quelque chose qui ne va pas, dans le sens où il n'a pas envie de fonder, donc il veut rester solitaire ou individualiste, etc. Ce qui peut éloigner des personnes. Donc les gens ne comprennent pas quelqu'un qui, à 25 ans, n'est pas marié. Maintenant, dans les grandes villes, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer. Mais les spécificités, on le voit notamment dans la souffrance de ces personnes-là qui vont le manifester davantage qu'avant. Parce qu'avant, je pense qu'on ne leur laissait pas forcément l'espace pour pouvoir le manifester. Les gens s'exprimaient à leur place. Vous voyez, le fait de penser pour eux, de choisir pour eux, d'imposer des choses ou de vouloir pour eux faisait en fait qu'on ne les entendait pas. Ces personnes-là. Là, on les laisse un peu plus tranquilles, peut-être, au niveau des familles, et encore, parce que vous avez des personnes qui vont aussi souffrir du fait que leur famille vont d'un côté souffrir de leur célibat, et vont parfois même souffrir de la pression familiale. Et ce qui est très, très paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais donc dans ce cas-là, ils voudraient la même chose, tous les deux. Oui et non. Elles ne veulent pas forcément la même chose. Elles ont comme objectif, peut-être, les deux. Donc la personne, la protagoniste, plus la famille, les deux veulent un mariage. La problématique, c'est que la personne concernée peut avoir l'impression qu'elle n'est pas entendue, qu'elle n'est pas respectée dans sa position, qu'on ne lui donne pas justement l'espace d'exprimer ses volontés ou ses conditions. Et le fait de ne pas avoir ou l'avoir l'impression de ne pas avoir d'espace peut aussi amener à une souffrance. Mmh. Donc là, il peut y avoir une double souffrance d'être incompris ou de ne pas être bien accompagné ou pas du tout accompagné. Parce que vous avez des familles qui vont être démissionnaires et qui vont laisser la personne faire seule, faire ce qu'elle veut, ce qui va arranger certains pendant une période, mais puis faire souffrir la même personne après coup. Parce que sur le coup, on vous donne une liberté, vous êtes content, puis après vous dites oui, mais en même temps, je suis seul et je suis plus accompagné, donc est-ce que je suis moins aimé, est-ce que j'ai moins de famille ou est-ce que j'ai moins de proches, et là on va souffrir d'autres choses. Donc vous voyez que c'est assez complexe. Selon les étapes et selon l'évolution de la personne, elle peut faire face à différentes souffrances qui va amener souvent à la même chose, qui est l'idée de la solitude en réalité.
Vous avez lancé une formation au mariage, vous, Ali, qui s'appelle Zawaj School. Ça veut dire quoi aujourd'hui qu'il faudrait aller à l'école pour apprendre à se marier ?
Alors, ce n'est pas une école, c'est une formation en ligne, mais l'idée est...
Mais qu'est-ce qu'on apprend dans une formation de mariage ?
Justement, l'idée est la suivante, et le fait de prendre conscience que le mariage est tellement important qu'il faut s'y préparer. Et s'y préparer, c'est d'abord de commencer à apprendre à se connaître soi-même, d'avoir des outils pour mieux se connaître, puis de se préparer au mariage pour savoir qu'est-ce qui nous attend par rapport au mariage. Déjà, comment se marier, qu'est-ce que le mariage, déjà le définir, parce qu'on a tous des définitions différentes, et ne pas rester sur des idées reçues, vous voyez, ne pas rester sur des idées reçues, se préparer justement à savoir quelles sont les règles de vie commune, comment justement vivre avec une personne, à quoi peut justement, quelle fonction peut avoir le mariage, les difficultés que nous allons rencontrer dans notre mariage, quelles que soient les personnes avec qui on se marie, on va rencontrer des difficultés, comment faire face à ces difficultés-là. Donc en gros, c'est se préparer, et cette préparation, elle est essentielle. Certains diront oui, mais comment on faisait avant, on ne faisait pas. Et si, en fait, les gens se préparaient avant. Elle est là, en fait, la problématique, c'est que les gens ne se rendent pas compte, parce que certains me disaient, oui, mais vous sortez une formation, c'est bien joli, mais pendant des milliers d'années, les gens n'avaient pas besoin.
Se marier, on avait l'impression que c'était...
Et ce qui est faux...
C'était inné.
Mais c'était pas inné. C'est pas inné du tout, ça s'apprend. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation. Et les gens ne se rendent pas compte que les mœurs ont changé, le système familial a changé, et que d'antan, on n'avait pas de formation en ligne, certes, on n'avait peut-être pas de bouquins qui expliquaient ça, et encore, on en avait quand même quelques-uns, mais l'éducation de la famille et du système de la cellule familiale préparait au mariage. Tout ce qui a été fait à un certain âge, à partir d'un certain âge, préparer les gens à se marier, que ce soit les jeunes filles ou que ce soit les jeunes garçons, on les préparait à être des adultes, à être matures et à pouvoir justement s'unir et à faire face. Et puis on les accompagnait quand il y avait des soucis et on était présent pour essayer justement de gérer certains conflits, de trancher par rapport à certaines problématiques. Donc non seulement on les accompagnait, on les préparait, on les accompagnait et on était là pendant tout justement le processus de vie qui était leur. Il y avait des préparations. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, et même si c'est encore le cas aujourd'hui, les gens les refusent, ces préparations. Vous voyez, on ne veut pas écouter les parents, on ne veut pas écouter justement...
Parce que les parents ne sont pas toujours des modèles. Enfin, en tout cas, en tant que couple.
Oui, mais c'est rarement des modèles, mais ils peuvent ne pas réussir ou avoir des difficultés dans leur couple et pourtant être de bons conseils.
Ali Habibi, votre livre vient de sortir. On le trouve sur Amazon. Le célibat, liberté et souffrance. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle l'adresse de votre site internet, Ali.
Habibi.fr. Oui, j'ai eu un temps de réflexion.
Non, je me suis dit, tiens, Ali Habibi a rompu, est en train de faire le jeûne numérique pendant le mois du Ramadan. Donc, il est en rupture avec les réseaux sociaux.
J'ai eu, il y a un moment d'hésitation, parce que j'ai hésité.
Vous mettez 2B quelque part à un moment donné.
C'est Habibi.fr et vous avez toutes les infos sur les formations en ligne, que ce soit Zawaj School ou l'attachement, plus le livre.
Ça se voit pas à la radio, mais Ali Habibi a changé de lunettes. Merci d'avoir été avec nous, Ali.
Merci à vous, Philippe. À bientôt.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.